très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir. Nous sommes au mardi 11 juin 2024. Il sonne 11h, passé de quelques instants sur La Nouvelle Génération. Merci de nous recevoir pour ce deuxième numéro de l'émission Club de la Presse pour le compte de cette semaine. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou Vitok Betomega est à la mise en onde et elle à la mise en ligne également. Je suis Pascal Loussou au micro. Merci à vous tous et qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires Radio Lumière à Nihor, Radio La Paix à Takpame, Sky FM à Badou, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Koktoazi à Dapaon. Et vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Vous avez aussi le privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio, avec moi et aussi des invités, bien sûr. Confrères journalistes, nous sommes au mardi. Eric Pakoudjo-Johnson est là. Eric, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour chers confrères, bonjour invités, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM.
J'espère que tu vas bien, tu as bien commencé la semaine.
Bien, merci, ça va.
D'accord, Dieu merci. Jean-Baptiste Atissou, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices et auditeurs à travers le monde entier.
Bien commencé la semaine aussi.
Naturellement.
Dieu merci. Par la grâce de Dieu.
Naturellement.
D'accord. Ça fait plaisir de vous avoir alors dans cette émission. Vous savez que nous sommes toujours ensemble chaque mardi pour débattre de l'actualité. Et c'est aussi ce rôle-là que nous sommes assignés. Je veux bien parler alors du journalisme que nous sommes en train de faire. Et donc, nous arrivons à expliquer un certain nombre de choses au public et à nos auditeurs dans cette émission Club de la Presse. Et merci une fois encore d'avoir répondu à notre invitation.
Avec plaisir.
Alors, Eric, c'est vrai, vous avez salué l'invité tout de suite. Justement, nous avons une invitée, c'est Madame Bariga Atta. Madame Birega, bien sûr. Madame Birega, toutes mes excuses, Madame Birega, bonjour.
Bonjour.
Madame Birega Atta Rosaline.
Oui.
Vous êtes la présidente nationale de AFED, Association des femmes épanouies pour le développement. C'est bien ça?
Exact.
D'accord. Alors, Madame, nous allons parler de cette étude-là que vous venez de réaliser. Une étude que vous avez réalisée sur le mariage des enfants. Le mariage des enfants, puisque c'est un phénomène qui continue et qui accourt dans certaines localités encore du pays. Aujourd'hui, c'est quoi la situation même d'ailleurs du mariage des enfants au Togo?
Et merci beaucoup, Monsieur Pascal. Et je dirais qu'aujourd'hui, la situation du mariage d'enfants au Togo est tellement préoccupante. Selon les informations disponibles, le taux aujourd'hui du mariage d'enfants est tellement fort. Dans les régions des savanes, jusqu'à ce jour, on parle de 40% dans certaines régions du pays, plus précisément dans la région des savanes, comme je venais de le dire. Raison pour laquelle Wildaf Togo et ONG Femmes ont effectué des études approfondies pour pouvoir créer un réseau et travailler et lutter contre le mariage des enfants. Qui dit enfant, dit enfant. Un enfant est un enfant.
Un mineur.
Un mineur. On n'a pas le droit de marier un enfant. Et c'est un projet qu'on a commencé depuis l'année passée. Et ça se poursuit. Nous sommes toujours sur le terrain. Et je peux dire que on a fait quand même un bon travail. Et aujourd'hui, c'est le moment de remercier l'ONG Femmes et Wildaf Togo qui ont pris cette initiative de faire ces enquêtes par rapport au mariage d'enfants dans notre pays.
D'accord. Alors, quels sont les facteurs qui encouragent le mariage précoce des filles au Togo? Puisque, oui, vous avez parlé même d'ailleurs de ces chiffres, vous avez donné des chiffres aujourd'hui, tout de suite, mais quels sont ces facteurs qui encouragent le phénomène?
Les facteurs qui encouragent ce phénomène aujourd'hui sont tellement nombreux. D'abord, nous allons parler aussi des facteurs socioculturels, comme vous le savez, la tradition dans certains milieux. Les facteurs, le manque d'éducation, la pauvreté et l'inégalité. Ça, c'est très important. Pour ne dire que cela. Mmh. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pousse les parents à marier les enfants mineurs? La grande partie, on dirait la pauvreté. Mais des fois, je dis non. Il y a un écrivain qui a dit, on peut être né pauvre, mais on finira pas pauvre. Ah oui.
Donc, il faut prendre les mesures nécessaires, les dispositions nécessaires.
Exactement. Mmh. Parce que moi, personnellement, j'ai horreur de ce mot-là, la pauvreté. Mmh. On peut te mettre au monde aujourd'hui dans une famille pauvre. Mais si tu veux rendre cette famille un jour riche, par la grâce de Dieu, tu pourras.
Justement. Alors, c'est vrai, on a vu même d'ailleurs des personnalités aujourd'hui, des gens quand même qui sont devenus des grandes personnalités, mais qui sont nés alors dans une famille pauvre, oui, mais qui sont parvenus à réaliser leur vie, à réussir leur vie. Oui. Et ça, c'est tel que vous l'avez dit, je mm-hmm. pense que c'est important. Il suffit simplement alors de prendre en charge sa vie et mm-hmm. de se mettre au travail pour y arriver. C'est très important. Tout alors, fait. Un constat, un fait, Madame Birega, c'est que votre étude épingle le code de personnes et de la famille et que alors certains parents brandissent pour justifier leur acte prétestant alors qu'il est permis de marier une enfant de 16 ans en cas alors de force majeure. Une telle disposition n'est-elle pas prévue dans le code?
Merci beaucoup. Et c'est prévu effectivement dans le code. Mais d'abord, toute personne n'ayant pas encore l'âge de 18 ans, normalement, ne doit pas se marier, n'est pas adulte. Mais néanmoins, la loi étant la loi a demandé, aujourd'hui, avant qu'un enfant de 16 ans soit marié, ça doit être sous l'autorisation des parents. C'est là où on parle de l'émancipation de la jeune fille. Et ils ont donné l'âge de 16 ans. Sans vous mentir, la dernière fois à l'atelier, moi, je me suis dit, j'ai dit, Ro, à celui qui veut l'entendre, mais 16 ans, c'est bien. Mais d'une part, à 16 ans, on n'est pas mature. À 16 ans, on est toujours mineur. À 16 ans, on est toujours bébé. À 16 ans, on est toujours enfant. C'est une loi qui a été votée. Nous sommes d'accord. On dit souvent que nul n'est censé ignorer la loi.
Et la loi, c'est la loi. C'est la loi.
C'est la loi. Mais néanmoins, ce serait quand même une bonne chose que nos autorités revoient cette loi.
Mais est-ce que c'est une faillite alors de la part du législateur?
Non, ce ne serait pas une faillite parce qu'ils ont voulu le faire ainsi. C'est par rapport peut-être à des études, par rapport à un constat. Mais aujourd'hui, il y a certains des enfants qui n'atteignent même pas 16 ans. Des enfants qu'on marie à 13 ans, à 14 ans, dans les savanes, voire 12 ans. Un enfant qui a 16 ans, qui est en classe de première, qu'on va, on enlève à l'école, parce qu'on a pris un montant, parce que ce monsieur est revenu de l'Arabie Saoudite pour faire marier l'enfant. Imaginez. Mais nous avons des enfants aujourd'hui. Mais c'est pour un lendemain meilleur. C'est pour nos vieux âges. Ce sont ces enfants qui vont nous accompagner un jour.
Ce n'est pas pour des mariages précoces.
Pas du tout.
D'accord. Alors, selon votre étude, les parents marient leurs enfants pour trouver de quoi rembourser leur crédit. Et comment se déroule en réalité une telle pratique?
Si on dit pour rembourser leur crédit, oui, vous voyez que les parents prennent souvent de l'argent. Le monsieur qui revient de nulle part et qui vient vous dire qu'il a vu votre fille quelque part, mais le fait qu'il vous glisse quelque chose, nous parlons en connaissance de cause, on ne va pas tout dire ici, on l'a vu, on l'a vécu, qui vient vous donner de l'argent parce qu'il veut épouser votre fille? Excusez-moi, un paysan qui n'a jamais vu un certain montant de 500 000, un 500 000 qui ne signifie rien du tout, même voire un million, mais écoutez, mais lui, c'est comme s'il était déjà au paradis. Mais il rend l'enfant comme c'était, je ne sais même pas, un objet, une marchandise.
Et la pauvreté est passée par là.
Voilà. Comme c'était une marchandise. Et ce qui n'est pas du tout normal. Mmh. On essaie aujourd'hui de faire cette sensibilisation pour dire aux parents, râle cela, Mais excusez-moi, mais c'est plus fréquent dans le milieu musulman que les musulmans m'excusent, mais c'est la réalité que nous vivons. C'est la réalité.
Puisque c'est ce que l'étude a démontré.
Exactement. L'étude a démontré, l'étude a prouvé. On l'a vu, on l'a vécu.
Alors, Madame Yoga, comment dissuader maintenant les auteurs et les instigateurs alors du mariage d'enfants au Togo?
Je pense que pour dissuader ces gens-là, il va falloir qu'on... C'est là où il faut voter vraiment des lois. Et si on vote ces lois, c'est des gens qui doivent être punis. C'est des gens qui doivent être punis. Et si on vote les lois, il faut vérifier. On vote les lois, il faut aller quand même voir si est-ce que les lois que nous avons votées sont respectées. Si ce n'est pas respecté, on doit les punir. On doit les punir. Et pour les dissuader, il va falloir qu'on fasse beaucoup de sensibilisation. Ça, c'est très important. Il faut qu'on fasse beaucoup de sensibilisation aux parents, aux éducateurs, aux enfants, et surtout en milieu rural.
Alors, parlant des sensibilisations, c'est vrai que vous avez déjà commencé cette sensibilisation sur le terrain. Concrètement, où êtes-vous alors sur cette question de sensibilisation?
Et pour cette sensibilisation, je peux vous dire aujourd'hui que nous avons fait beaucoup. WILDAF Togo et ONG Femmes ont choisi 30 OSC, dont je fais partie.
Organisation de la société civile.
Exact. Dont je fais partie. Ma structure fait partie. Et nous faisons beaucoup. Chaque mois, c'est les sensibilisations sur tout l'étendue du territoire, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Et je pense que, par la grâce de Dieu, on pourra éradiquer un jour ce mal.
Ça serait vraiment très important d'éradiquer ce mal un jour, justement. Alors, c'est vrai qu'il y a des enfants qui sont déjà victimes, des filles hein, qui sont déjà victimes alors de ce phénomène. Mmh. Est-ce que c'est possible de réhabiliter ces filles?
Oui, c'est possible de réhabiliter ces filles.
Comment ça va se faire?
En principe, sans nous mentir, on ne va pas se voiler la face, on n'a pas beaucoup de centres de coutes au Togo. D'abord, pour réhabiliter un enfant qui a été déjà traumatisé par un mariage précoce, il faut d'abord un psychologue. Et c'est très important. Et ce psychologue doit être où? Dans un centre d'écoute. Il faut des centres d'écoute dans chaque préfecture, dans chaque milieu reculé. Et il faut mettre des gens compétents, des gens qui seront à la hauteur. Ce ne seraient pas des gens qui vont encore frustrer ces enfants, parce que ces enfants déjà sont déjà traumatisés, psychologiquement ne se contiennent plus.
C'est des gens qui doivent comprendre la situation.
Tout à fait. Et comme on le dit, ce sont des gens qui doivent être tendres. Et ces centres d'écoute, en écoutant les enfants, on va essayer de leur parler, de leur ramener à la raison, de les rassurer avant de les intégrer dans leur famille respective. Ça, c'est très important.
Et pour ce qui concerne alors le mariage, finalement, si ces enfants sont déjà en plein mariage précoce, finalement, est-ce qu'on pourra même les faire sortir alors de ces mariages
Pourquoi pas? Puisqu'il y a certains enfants, quand les enfants comprennent, les enfants quittent même les lieux. Les enfants, aujourd'hui, ont des numéros verts. Les enfants appellent les numéros verts. Ils courent vers WILDAF. Ils courent dans n'importe quel OSC, dans chaque préfecture. Chaque jour que Dieu fait, on vit cette situation. Effectivement, il y a le mariage précoce, surtout le temps du Togo, hein, mais c'est là où c'est vraiment récurrent qu'on a mis l'accent. Mais dans chaque jour que Dieu fait, on nous appelle. On m'a même appelé même avant-hier pour un cas que je suis en train de voir comment on va gérer ça.
Chaque jour, vous gérez des cas.
Oui.
D'accord. Eric a une question pour vous, Eric.
Peut-être trois. Trois petites questions.
Voilà,
alors, je voudrais, je vous remercie d'abord pour cette étude. Je crois que dans notre journal, nous avons essayé de parler de cela il y a quelques petites semaines. Mais je voudrais savoir, les gens que vous avez interrogés et qui sont dans cette pratique-là, quelles sont les raisons qu'ils vous ont données par rapport à leur pratique? Alors, quelles sont les franges de la population que vous avez interrogées pour faire votre étude? Vous venez de parler tout à l'heure de numéro vert. Est-ce que vous pourrez donner ces numéros verts-là, parce que nous sommes sur une radio, et ça intéresserait bien les gens d'avoir ces numéros.
D'accord. Oui, madame Birriga.
Je vais te demander de faire signe à l'autre pour qu'il m'envoie ça.
D'accord, ok.
Les numéros verts, on va essayer de les envoyer. Il faut appeler.
Tout à fait.
Vous avez demandé tout à l'heure si quelles sont les enquêtes qui ont été effectuées avant de...
Non. Bien, oui. Ce que vous avez interrogé, oui, c'est oui. Quelle frange la population?
Non, c'est dans les savanes. C'est dans l'Oti. C'est des enfants victimes. C'est les enfants victimes qu'on a interrogés. Puisque selon l'enquête, après l'enquête, on a ciblé les enfants. Donc, Wildaf est parti vers les enfants. Tout récemment, nous, les enfants étaient là. Les enfants étaient là au Togo, à Lomé ici, avec les chefs religieux, plus précisément l'imam et autres. Ils étaient là. Et les enfants ont témoigné devant les autorités. Donc, c'est des enfants quand même qu'on ne doit pas quand même dévoiler. Puisque c'est un projet. Et l'imam était là.
Si je comprends bien, l'objet de cette étude, c'est d'écouter les victimes de cette pratique.
Écouter les victimes de cette pratique, les protéger et demander à la population...
Mais pourquoi vous n'avez pas écouté les parents?
Oui, on a écouté les parents. Justement. On a écouté tous les parents. Nous, on a écouté tout le monde. Mais c'est les parents qui donnent les enfants en mariage. On doit les écouter. Et c'est pour te dire que tout se tourne autour de l'argent.
D'accord. La raison principale...
Oui, c'est tout autour de l'argent. C'est pourquoi j'ai dit que moi, j'ai horreur de la pauvreté. Qu'on me dise que c'est à cause de la pauvreté qu'on fait ceci. Moi, j'ai horreur de ça. Parce que quand tu te dis que tu es pauvre, excusez-moi, tu vas mourir pauvre. Non, pas du tout. Donc, moi, j'essaie souvent de dire aux gens, oubliez la pauvreté. On peut avancer. On peut être né pauvre, mais on ne va pas mourir pauvre. C'est ce qui est sûr.
Okay.
Donc, c'est les parents. Je vous ai donné un exemple banal tout à l'heure. Un enfant à 16 ans, en première, mais ça ne court pas les rues quand même. Dans un village, quelqu'un qui ne revient de nulle part, et vous allez enlever l'enfant de l'école. Mais ça n'a pas été facile. Pour une somme, je ne sais même pas, dérisoire, mais quand même. Mais on essaie, tout à l'heure j'ai dit, il faut d'abord sensibiliser les parents, sensibiliser la population, sensibiliser les éducateurs, parce que c'est très important. Aujourd'hui, une fille, une jeune fille à 12, 13, 14 ans, qu'on marie, mais écoutez, mais c'est pour aller faire quoi? Et aujourd'hui, dans certains milieux musulmans, on marie les enfants parce qu'on se dit que si l'enfant grandit un peu, l'enfant risque de perdre sa virginité. Et c'est pourquoi on les marie précocement, selon les enquêtes. Mais si vous donnez des conseils à votre enfant, l'enfant ne pourra pas perdre votre virginité quand même.
Non. D'accord, ok, oui, merci beaucoup. Oui, voilà, Ali, vous avez une question, madame, rapidement.
Bonjour.
Oui, bonjour. Et
dans le même sens, je crois qu'en parlant, vous avez évoqué l'imam qui était présent aussi. Je vous ai demandé quelle est vraiment votre position par rapport à la résistance en ce qui concerne la religion. Je crois que la religion a une influence, parce qu'en parlant, vous avez parlé de l'imam.
Oui, puisque c'est plus en milieu musulman que ça se passe, puisque le projet l'a souligné. Leur résistance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils disent que la fille ne doit pas perdre sa virginité. Si vous épousez votre fille à 14 ans, aujourd'hui déjà à 15 ans, les filles, vous connaissez mieux ce que c'est. Donc, je pense qu'eux, ils pensent que c'est leur culture, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est leur culture.
Que l'enfant doit être vierge
avant de se marier. Mais c'est pourquoi on leur dit, il y a une autre manière de donner des conseils à un enfant qui peut même être vierge. Aujourd'hui, il y a des filles qui sont vierges à 18 ans. Il y a des filles qui sont vierges à 20 ans parce qu'elles savent ce qu'elles veulent. Elles savent ce qu'elles veulent. Il suffit seulement de parler bien avec cet enfant, de prendre cet enfant comme ta soeur, je ne sais pas quoi, mais elle va t'écouter. L'enfant va t'écouter. Elle va t'écouter. Ce n'est pas obligatoirement de l'envoyer en mariage précoce là où elle sera torturée, déchirer son hymen d'une manière, je ne sais même pas, l'enfant ne pourra pas marcher. Mais c'est des problèmes. C'est des problèmes.
Alors, c'est un sujet très intéressant et très important aussi pour la société. Voilà, Sam, vous avez une question rapidement pour qu'on en finisse avec ce sujet.
Oui. Alors, moi, d'abord, je dis bonjour aux auditeurs et auditrices et féliciter Mme Birega pour l'enquête qui a été menée. Déjà, l'enquête est dissuasive. Parce que si vous êtes parent et que vous avez été enquêté, vous ne savez pas à quelle fin sera destiné les résultats de cette enquête. Si c'est pour qu'on publie dans une revue, ça veut dire que vous serez exposé si vous vous adonnez à ce cas de pratique. Mais ce qui m'a semblé un peu intriguant, peut-être que l'enquête n'a pas pris en compte certains aspects de notre société. Je veux parler, c'est comme l'enquête s'est beaucoup plus focalisée sur les milieux musulmans. Parce que c'est vrai que par le passé, c'est des pratiques très fréquentes au niveau des... Moi-même, je suis musulman,
tout faut à
que
fait.
Je le précise.
Faut préciser cela.
Dans les milieux musulmans, c'était des pratiques très courantes par le passé. Mais aujourd'hui, cette tendance n'est plus d'actualité. Il faut qu'on se dise la vérité. Peut-être dans les milieux les plus reculés, ça existe encore. Mais moi-même, je suis musulman, je suis père de fille. Et mes parents même, ils n'ont pas été à l'école, mais je n'ai pas vu mes sœurs être mariées à un âge très bas. Maintenant, l'aspect que je voulais évoquer, c'est dans les milieux couvents, où ce n'est pas des musulmans, mais là aussi, on marie les jeunes filles à des âges très bas. Pourquoi l'enquête s'est focalisée uniquement sur des milieux musulmans? Parce que vous avez parlé de la région des savanes, notamment d'Apaon, Oti, mais vous n'avez pas beaucoup plus mis l'accent dans la région centrale, où il y a une très forte communauté musulmane. Pourquoi l'enquête s'est limitée à des milieux musulmans et pas à des milieux couvents où la pratique aussi est à des proportions inquiétantes?
Merci beaucoup. Et effectivement, ce que vous dites est très pertinent. Mais c'est que l'accent aujourd'hui, comme vous venez de le dire, vous êtes musulman. Aujourd'hui, il y a dans certains milieux, on ne marie plus les enfants mineurs. Si on a mis l'accent dans la savane, dans l'Oti et d'Apan, c'est parce que là, comme je le dis, c'est tellement récurrent et ils n'arrivent pas à comprendre que ce n'est pas une bonne chose. Dans la région centrale, c'est bien vrai, il y a des cas, mais dans la région centrale, il y a des gens qui n'arrivent à comprendre. Parce que nous avons beaucoup des OSC là-bas qui font le travail sur le terrain et les résultats, on les connaît. On les connaît. Si on a ciblé ces lieux, c'est pour vous dire que trop, c'est trop. C'est pour ça qu'on a mis l'accent. Et c'est des... On ne parle pas parce qu'il faut parler. C'est des preuves.
C'est une étude.
Oui, les victimes sont là.
D'accord.
Elles étaient même venues chez moi. Je ne veux pas parler. Elles sont sur ma tête. Dans les couvents, oui, je suis d'accord. Comme je vous l'ai dit, par exemple, dans la région centrale, il y a la société civile qui fait un bon travail là-bas. Eux, ils le font déjà. Imaginez-vous, dans les savanes, dans les outils, Il n'y a pas ce travail là-bas à fond. Mais tandis que Sokodé, à peu près, c'est une ville. D'après, je ne dis pas que c'est pas une ville, Mango, non. Mais ce n'est pas une étude qui se fait là-bas comme à Sokodé. C'est pour ça qu'on a choisi. Après les enquêtes, c'est pourquoi on a choisi ces deux milieux et pour faire quelque chose. Et sans vous mentir, à ce jour, tout le monde a adhéré, la grande partie a adhéré. Même les autorités togolaises.
D'accord. Voilà, et une dernière question avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, rapidement.
Ok, en fait, ce n'est pas une question, mais peut-être
un apport.
Oui. Pour dire que l'étude que vous avez eue, madame a eu à faire dans la région des savanes, est une bonne étude, mais quand même préciser que, au fait, peut-être par manque de sensibilisation, il y a ce phénomène perdu là-bas parce qu'il y a pas, parce que les OSC, les organisations de la société civile togolaise, manquent cruellement de moyens, surtout financiers, ce qui fait que les sensibilisations n'atteignent pas le Togo profond, voilà. Si on peut le dire ainsi. Mais au-delà de ça, je crois que peut-être un phénomène similaire au mariage précoce que je veux peut-être ajouter, c'est comment l'appelle-t-on, les grossesses en milieu scolaire, qui constitue aussi un phénomène très proche
du mariage précoce,
qui maintenant ce dernier phénomène qui s'étend dans beaucoup de milieux. Et ma préfecture Yoto n'est pas épargné parce que il y a quelques semaines j'étais allé peut-être à Couvé pour ne pas occulter cela, parce que j'ai vu des jeunes élèves qui portaient des grossesses. C'est ça, j'étais presque ébahi de voir ces jeunes filles porter des grossesses à cet âge-là. Donc je n'en revenais pas. Ceci pour dire que aujourd'hui il y a bel et bien ce phénomène de mariage précoce qui a cours dans certains milieux, notamment dans la région centrale et puis savane de notre pays. Mais
on
n'a
pas parlé de savane, on n'a pas parlé de centrale. Bien.
Donc il ne faut pas quand même occulter cela.
Merci.
Merci beaucoup, monsieur Jean-Baptiste. Concernant les grossesses précoces en milieu scolaire, et c'est, nous avons commencé ceci en 2021.
C'est ça.
C'est nous-mêmes qui avons fait, comment l'appelle-t-on, une sensibilisation sur toute l'étendue du territoire dans les milieux scolaires concernant le... C'était en 2021.
Ouais.
Concernant la grossesse précoce en milieu scolaire,
ouais,
et la violence basée sur le genre.
C'est ça.
Et effectivement, à ce jour, là où nous sommes passés, ouais, il y a eu d'impact. Les directeurs, les proviseurs nous ont rappelé même de revenir.
C'est ça.
C'est pour vous dire que ce que vous dites est pertinent. Nous sommes d'accord.
C'est ça.
Mais on continue, on ne va jamais finir de le faire, et je pense qu'un jour, par la grâce de Dieu, et ce sera éradiqué quand même.
D'accord, merci beaucoup Madame Birega d'être passée dans cette émission. Je rappelle le numéro de WILDAF, puisque déjà pour ce qui concerne le numéro VEI, il suffit simplement de contacter WILDAF, voilà, et ce serait fait, et c'est 91-99-98-21, 91-99-98-21, avec ce numéro, il suffit simplement de biper le numéro, et le numéro, enfin, on vous rappelle. Et on vous rappelle alors pour d'amples explications à donner sur le cas que vous voulez présenter. Merci beaucoup Madame Birega d'être passée dans cette émission. Ça fait tellement plaisir de vous recevoir.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Alors, nous allons continuer le débat ici au Club de la Presse. Et comme nous savons bien le fait déjà chaque mardi, Eric, nous avons bien parlé d'abord de la culture hein, pour démarrer cette émission. Et donc, culture et Eric, dans votre journal, vous nous parlez alors d'un sujet très important ce matin. Vous écrivez dans votre journal à la page, bien sûr, 2, que vous parlez de la littérature Évé et Cabiais, et vous parlez de, vous dites que vers une reconnaissance de langue nationale. Une renaissance, pardon, des langues nationales au Togo. C'est bien ça.
C'est bien cela. Alors. Je crois qu'il faut dire vraiment bravo à la direction des bibliothèques et de la promotion littéraire qui a eu à organiser un atelier de renforcement de capacité à l'endroit des deux académies des langues nationales, des deux langues nationales que nous avons, à savoir le Cabiais et l'Évé. Et donc, au cours de cet atelier, et il y a eu deux phases. Il y a eu la phase formation et maintenant la phase critique où des littéraires, des écrivains en herbe, en cabiais et en évé ont eu à présenter leurs œuvres qui ont été en même temps critiquées, et les académiciens évé et cabiais ont apporté des touches pour que ces livres qui ont été rédigés dans nos langues nationales aient un contenu, un meilleur contenu, et que cela soit produit plus tard. Je dis que c'est vrai, vous savez, aujourd'hui, on a comme l'impression que nous sommes en train de perdre quand même nos langues autochtones. À savoir que nous apprenons en français. C'est la langue officielle. Et donc, tout ce que nous faisons, on a tendance à ne parler que français. Mais quand vous allez aujourd'hui, vous avez mis vos enfants à l'école et ils reviennent, vous commencez par leur parler encore le vernaculaire, mais l'enfant a tendance à vous répondre en français. Tout simplement parce que c'est cette langue-là qu'il parle à l'école, avec ses camarades, avec ses instituteurs et tout ça. Mais je me rappelle que nous, quand nous tous ici, quand on était encore sur les bancs, on apprenait quand même le kabir ou levé. Et on avait au moins une heure ou deux par semaine pour apprendre nos langues nationales. Je crois que c'est en train de partir. Mais il faut redonner vie à nos langues nationales. J'ai été très ému l'année dernière, je crois que c'est avec ça on en avait parlé,
Berlis, voilà.
D'apprendre que aujourd'hui il y a une académie de la langue Akebu en gestation. Et je crois que il y a un prêtre et le ministre de la culture et du tourisme,
Docteur Lamadoukou.
Docteur Lamadoukou, était présent à cette cérémonie. Je crois que c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, il faudrait qu'on fasse tout pour pouvoir lire nos langues. Parce que vous savez, il y a un écrivain qui a écrit que quand tu apprends dans ta langue maternelle, tu retiens plus rapidement que dans une langue étrangère. Et je crois que c'est un phénomène que nous constatons. Lorsqu'on explique les choses aux gens dans nos langues, c'est plus facile de comprendre que de chercher une autre langue pour le faire.
Surtout que c'est notre langue maternelle, donc quand on l'explique dans notre langue maternelle, on a justement cette habileté à mieux comprendre les choses, telles que tu l'as dit, Eric. Et Ali, rebonjour.
Rebonjour.
Alors, c'est vrai que quand on parle bien. Alors, justement, quand on parle alors de nos langues maternelles, bien sûr, aujourd'hui nous avons tendance quand même à laisser ou à délaisser même d'ailleurs ces langues au profit même d'ailleurs de la langue des Occidentaux. C'est ce qui se passe. Et c'est un complexe aussi des fois.
Oui, c'est un complexe qui date, ce n'est même pas aujourd'hui. Hein. Moi, je dis, le confrère vient de dire que, à notre temps, quand on était encore sur les bancs, on avait au moins une heure, deux heures pour faire la matière, soit cabier ou levé. Et c'est des matières déjà à l'époque qui étaient reléguées au second plan, parce que c'était facultatif. Moi, je me rappelle, j'ai passé le BPC et j'ai fait agriculture comme matière facultative. Je n'ai pas fait levé. Je pense qu'il fallait choisir, si je ne me trompe pas, hein, entre les trois levées, le cabier et l'agriculture, qui était
facultative. Mais en ce moment, c'était...
Il y avait la langue, il y avait l'agriculture et puis la couture.
La couture aussi.
Voilà.
Ou le dessin.
L'agriculture,
le dessin.
Et le dessin. Oui. Je crois que c'est ce que j'ai fait. Pour dire que déjà à l'époque, l'heure, le timing qui était consacré à notre propre langue n'était rien. Au même moment, la compétition dans ce domaine... ça ne donnait pas des nuls, d'autant plus que c'est une matière facultative où on pouvait te prendre le surplus de points. Je crois que tu as, quand tu as 10 par exemple, tu n'as rien. Si tu as 12, on te fait plus 2. Je pense que c'était ça. Et qu'aujourd'hui, la situation est devenue est davantage amère parce que il n'y a aucune considération pratiquement à ces langues, à nos propres langues qui disparaissent totalement et que les nuls se fait plutôt rien qu'en français et plus ou moins en anglais. Malheureusement, que ce soit le cabier ou l'évé qui sont déclarés comme étant des langues nationales, c'est juste le papier, c'est juste le papier écrit noir sur blanc. Malheureusement, dans la pratique, on est très loin de faire un peu comme le Sénégal, ou quand ils font même leurs journaux, il y a le Wolof, quand même des autorités parlent, vous avez suivi lors de la campagne même des nouvelles autorités, vous avez vu le Wolof qui n'a pas été du tout mis de côté par rapport aux Français. À tout moment, dans les discours, vous allez voir de temps en temps, cette langue revenait. Mais malheureusement, nous au Togo, on est très loin de cette situation. Vivement que ce qui se dit aujourd'hui par rapport à ces écrivains, avec l'académie qui revient, que cela vraiment puisse être instauré dans la pratique. Parce que c'est une question de... Il ne s'agit pas de... Enfin, de créer seulement une académie pour ça, mais que dans la pratique quotidienne, hein, qu'on puisse vraiment le sentir dans nos centres de formation, dans les écoles. Parce que c'est un peu par rapport à ce que nous vivons, par rapport à la consommation locale. C'est-à-dire que quelque chose qui est déclaré, mais en réalité qu'on ne pratique pas. Dans notre manière de manger, l'habillement, c'est pareil. Quand on va s'exprimer, il va falloir qu'on puisse le faire aussi dans l'administration, à des jours ou à des moments précis, comme le professeur Kokoroko l'avait fait entre-temps. Je ne sais pas, non, est-ce que c'est Kokoroko? Oui. les vendredis
pour l'anglais,
qu'on l'anglais. Puisse parler l'anglais. Mmh. Mais je pense qu'il doit y avoir des jours qu'on puisse carrément dédier à la langue locale.
D'accord. Ou aux langues locales. Mmh. Alors, Sam, c'est vrai que Ali l'a dit tout de suite qu'il n'y a pas tellement d'émulation autour, même d'ailleurs, de nos langues nationales. Mmh. Aujourd'hui, même ces langues sont délaissées, hein, au profit même d'ailleurs du français et de l'anglais aussi. Alors, aujourd'hui, quand on prend même ce phénomène, qu'est-ce qui explique même d'ailleurs le phénomène? Est-ce que c'est au niveau alors peut-être alors des décideurs de prendre la décision et de dire que mais désormais il faudrait quand même qu'on mette nos langues au profit?
Non, moi je suis d'accord et j'apprécie d'ailleurs ceux qui s'investissent à rendre beaucoup plus visibles les langues, les deux langues que les confrères ont citées pour que le Togo s'identifie sur la base de ces deux langues. Mais sauf que vous allez voir, par exemple, ils ont parlé des cours de langue quand on était à l'école. Et moi, je me rappelais que lorsque l'heure de faire la langue là arrive, moi, je désertais.
Parce que vous n'étiez peut-être pas seul. Hein?
Oui, parce que je me demande pourquoi c'est ces langues-là on doit m'apprendre et pourquoi pas ma propre langue. Parce que il a parlé du Wolof. C'est une langue qui fait l'unanimité au Sénégal. Mais depuis le temps des indépendances, le Wolof, c'est-à-dire que chaque Sénégalais se retrouve quand on parle le Wolof. Ici, dans ce studio, il y a certaines langues quand on va parler, ni toi ni moi, personne ne comprendrait. Donc ça fait que d'abord la difficulté pour que nos langues-là puissent prendre de l'ascendance, c'est là-bas. On a assez de langues ici au Togo et aucune langue, bien que ce soit deux qui ont émergé, mais les deux langues ne font pas l'unanimité. Et alors moi je me suis dit, quand nous insistons à apprendre les langues là, c'est bon, c'est une bonne chose, parce qu'il faut quand même qu'on garde cette fierté identitaire que nous avons d'appartenir à notre Togo ou à nos langues. Mais après le Togo, après le carré du Togo, nos langues là, quand on sort, on va à l'extérieur, ça nous sert à quoi? C'est pour cela, moi je dis, il faut beaucoup plus mettre l'accent et sur le français et sur l'anglais. Parce que dans les compétitions internationales, nous allons à l'école, nous voyageons, nous allons à l'extérieur. Quand nous allons finir d'apprendre le thème, le mina, le moba et tout.
Le kotokoli.
Oui, le kotokoli dans notre Togo là. Quand on sort, ça va nous servir à quoi? C'est bon de faire des recherches, c'est bon d'avoir une académie, mais au-delà de tout, il faut mettre l'accent sur le français. Mais surtout sur l'anglais, parce que nous sommes à l'heure du Commonwealth. Et quand on prend les langues les mieux parlées au monde, l'anglais se situe en bonne position. Quand vous allez pour des affaires, même pour les études, aujourd'hui il y a des bourses qu'on donne aux étudiants togolais pour aller en Russie, pour aller en Chine. Quand vous ne comprenez pas chinois, au moins comprenez l'anglais, ça vous permet de sortir la tête de l'eau. Bon, je n'ai rien contre les deux langues, hein, mais sauf que les deux langues, franchement, ne font pas l'unanimité sur l'ensemble
alors,
du territoire.
Alors ça, oui. Je ne vais pas être d'accord avec toi sur
c'est un débat.
Non, mais le truc aujourd'hui, tu viens de parler de nos langues identitaires. Ouais. L'identité, c'est un ensemble. Mmh. Il a parlé du vêtement, par exemple. Ouais. Nous prenons tout ça là des autres. Mmh. Mais nous-mêmes, qu'est-ce qui nous identifie par rapport aux autres? Mais nous ne devons pas perdre nos langues. Je crois que cet atelier avait pour objectif de préserver et de valoriser nos langues. Vous savez ce qui s'est passé en Afrique centrale, le Swahili, que tout le monde parle aujourd'hui un peu partout en Afrique centrale.
En Afrique, oui.
Mais ça vient d'un pays. Et donc, aujourd'hui, tout le monde essaie de parler le Swahili parce que quand tu vas en RDC, tu vas en parler, tu vas en Centrafrique, tu vas en parler au Rwanda, au Burundi, etc. Et donc, je crois qu'il faut commencer quelque part. Si nous délaissons nos langues, c'est qu'elles vont disparaître. Et nous n'aurons plus cette identité.
On se déracine davantage.
Linguistique là. Logiquement, c'est pour ça que je dis que oui, on va apprendre parce que c'est déjà nos langues d'éducation. Mm-hmm. On apprend tout dedans parce que, imaginez-vous, comment expliquer les mathématiques aujourd'hui en Évé et en Kabyé? Donc, c'est des exercices, c'est des choses qu'on doit faire, mais si nous, aujourd'hui, il y a une génération qui est en train de partir, il y a une autre qui suit. Et si tout le monde part,
c'est que nous n'aurons plus cette identité.
Non, c'est une très bonne chose. Non, je pense que Eric ne m'a pas compris. C'est une très bonne chose. Mais sauf que moi, je lance le débat. Il a parlé du Wolof.
Non, quand tu dis.
Le Swahili, le Lingala, il y en a des langues
comme ça.
Quand
tu dis, quand tu sors, quand tu sors de notre
territoire,
que ça ne va plus te servir à rien. Je pense que non. Parce que, regardez.
Tu vas parler ça avec un Chinois.
Prenez Lévé par exemple. Lévé, vous le parlez au Ghana. Lévé, vous le parlez au Bénin à côté. Le Kadien, vous le parlez au nord du Bénin. Et vous savez, on ne peut pas perdre cela. Il faut plutôt renforcer cela. Il faut voir quelles sont quelle est la stratégie à adopter pour que ça devienne une langue d'abord sous-régionale. À partir de deux pays, on peut éclater.
C'est bon. Jean-Baptiste, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'une langue, c'est aussi un élément alors de cohésion sociale. Et ça crée même d'ailleurs de l'émulation pour former une nation, c'est ça.
Justement, je crois que nous ne devons pas délaisser nos langues parce qu'elles font notre identité. Et moi, par exemple, quand on veut parler, surtout je vais directement nous comparer aux pays asiatiques, il y a des langues que ces pays, beaucoup de pays asiatiques, parlent en interne. Et aujourd'hui, on ne peut pas quand même dire que sa langue, les langues nationales de son pays n'ont pas de portée à l'extérieur. Aujourd'hui, il est bien vrai que la langue de travail dans beaucoup de pays à l'échelle internationale, c'est l'anglais et le français. Bon, peut-être d'autres langues, l'allemand aussi peut s'ajouter. Mais naturellement, nos langues, nous devons les valoriser. Ça fait partie de nos cultures. Et aujourd'hui, quand on dit que bon, c'est seulement le Kabyé et l'Évé qui ont des académies, c'est bon. Mais
sauf qu'il y a même un bon dictionnaire. Il y a même un dictionnaire.
C'est un bon débat. Et si par exemple, si nous avons une vision pour nos langues, je crois qu'à partir de ces deux académies, si ces deux langues sont vraiment enseignées et comment l'appelle-t-on, évaluées et prises en compte dans les différents examens.
Cette vision dont vous parlez viendra de qui?
Bien sûr, des décideurs politiques, naturellement.
D'accord.
Ce sont eux. Ce sont eux qui doivent décider à ce que ces langues-là soient enseignées rigoureusement dans les écoles.
D'accord.
Et merci, ça va être fait. Et maintenant, c'est au-delà de ça, comment l'appelle-t-on, Sam parlait tantôt du fait qu'il y a une diversité de langues. Nous savons ça depuis l'école primaire qu'on a plus de 40 ethnies au Togo. Mais si on commence par enseigner et évaluer ces deux langues-là, je crois que chaque Togolais fera l'effort de les maîtriser.
D'accord.
Parce que c'est dans la capitale aujourd'hui, je crois que si on parle l'Évé, je crois que tous les Loméens à 95% comprennent l'Évé.
Tout à fait. Alors, merci beaucoup. Et nous allons quitter le sujet. Parce que c'est vrai, c'est un sujet intéressant, mais nous allons quitter le sujet. Et nous allons transporter à ce sommet Afrique-Corée du Sud, mais nous allons faire un peu de parallèle, puisqu'on sait qu'en marge alors de ce sommet, il y a le président de la République, Faure Gnassingbé, qui a visité le centre AOAF. Et il y a un discours qui a été prononcé au cours alors de cette rencontre avec le leader alors de AOAF, bien sûr. Et je ne sais pas si vous avez écouté alors le discours, mais ce discours a fait tellement de polémiques sur la toile. Et Eric, vous êtes revenu alors sur ce discours ce matin et vous écrivez « Pour éviter l'extrémisme violent et le terrorisme, Faure estime que la jeunesse doit se maîtriser. » C'est bien ça.
C'est bien ça. Mais je comprends pas cette polémique en réalité. Parce que moi, si un ami qui m'a envoyé la vidéo, et quand je l'ai regardé, et tout de suite, il m'écrit un truc en bas, soi-disant que le président a insulté la jeunesse de la sous-région. Mais j'ai dit, excuse-moi, mais est-ce que tu as écouté tout le speech du chef de l'État? Un chef d'État, mais quand même, ne peut pas se permettre d'injurier la jeunesse de son pays et a fortiori celle de la sous-région. Je dis, mais excusez-moi, hein, c'est insensé de penser ça. N'importe où je me trouve, on me dit un homme politique se permet d'injurier toute une jeunesse, mais le pays revient à quoi alors? Quand vous prenez nos populations, c'est à plus de 45% de jeunes. C'est les jeunes qui font la population dans nos pays. Comment un homme politique à ce niveau peut-il se permettre d'injurier les gens? Alors, j'ai alors cherché tout le speech et je dis, mais comment on en est arrivé là? Ça veut dire qu'on a juste sorti cette phrase
de son contexte,
du contexte général dans lequel le chef de l'État a parlé. Et les gens n'ont pas écouté également les mots du pasteur. C'est le pasteur qui a déjà prononcé cela.
Et le chef de l'État l'a repris.
Et le chef de l'État l'a repris en disant qu'effectivement,
même chez lui,
il est dans une région en Afrique où les jeunes sont enclins au terrorisme et à l'extrémisme violent. Et donc, ces jeunes-là, à cause de leur vulnérabilité, se permettent d'aller vers ces gens-là. Parce que tout de suite, quand on leur propose de l'argent, quand on leur propose du matériel, ils acceptent. Ils ne réfléchissent pas. Parce que, vous savez, c'est Bob Marley qui a dit hein, que un homme affamé est un homme aigri, est un homme violent tout de suite. Et donc, c'est dans cette posture-là que le chef de l'État a prononcé cette phrase-là. Et je crois que c'est pour réveiller la conscience de nous tous que l'extrémisme violent et le terrorisme ont leur source dans ce que vivent les jeunesses de la sous-région.
D'accord.
Les gens n'ont pas de travail. Les gens, ils se réveillent le matin, ils ne savent pas quoi faire. Ils n'ont pas à manger. Alors tout de suite, quand quelqu'un vient leur proposer de l'argent, comme disait tantôt madame tout à l'heure par rapport au mariage précoce des filles dans les savanes, le papa, dès qu'on lui dit, mais écoute, on va te remettre 500 000 pour prendre ta fille, mais parce qu'il est dans le besoin, mais ça ne réfléchit plus. Tout de suite, on tombe sur l'occasion parce qu'on veut sortir d'une situation de précarité. Mmh. Et donc, je crois qu'en réalité, polémique ne devrait pas y avoir.
D'accord. Alors, Ali, c'est vrai que la phrase qui a fait polémique hein, dans le discours alors du chef de l'État, c'est quand le chef de l'État dit « Je vis les conséquences désastreuses d'une jeunesse ou d'un jeune, comme il a dit, qui n'arrive pas à réfléchir avant d'agir, qui ne se maîtrise pas ». Et voilà, une telle phrase, normalement, quand on suit hein, tout le discours, ça ne devait quand même pas faire polémique, non?
Oui, naturellement, je pense qu'au risque de répéter certaines choses, je voudrais dire que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux et il est beaucoup facile aujourd'hui que votre position, vos propos soient interprétés d'une manière ou d'une autre. En tout cas, c'est la liberté d'expression. À côté de laquelle il y a forcément le libertinage que nous devons s'efforcer d'éviter de temps en temps. Pour dire que les propos du chef de l'État, moi personnellement, m'est déjà arrivé en tant que média, en tant que journaliste, qu'après un atelier ou après un discours d'une autorité, par rapport à l'article que vous avez écrit, soit vous avez voulu peut-être prendre en titre, ne serait-ce qu'un mot, une expression à mettre en relief de la personne, du discours prononcé par l'autorité en question, il y a des moments où vous reproche si c'est réellement ça. Quand on n'a pas pris le temps de te lire, alors que le titre, c'est seulement un bout de tout ce que la personne aurait dit lors de l'atelier. Pour dire que dans le cas d'espèce,
il y a une question de cohérence. Il faut suivre d'abord ce qu'est sorti du pays hôte. Ensuite, analyser du début jusqu'à la fin les propos du chef de l'État togolais pour voir qu'en réalité, il ne devait pas avoir de débat. Mais comme je le dis tantôt, les mentalités ne sont pas forcément les mêmes choses. Et c'est de bonnes guerres. Hein. Vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup de besoins. Il y a quelqu'un chez lui. Pour quitter chez lui et rejoindre un autre quartier, il faut qu'il traverse tellement de flaques d'eau, il faut qu'il ait les pieds dans l'eau. Naturellement, il y a la frustration. Et ça fait que, comme il a dit d'ailleurs dans son discours, beaucoup ne prennent pas de recul avant de s'y lancer. On a piqué la portion de phrase là qu'on a mis dans des séquences de vidéos qui circulent en boucle sur plusieurs que qu'on voit sur les plateformes, sur les panels, pour dire qu'en réalité, il suffisait seulement d'écouter de bout en bout, sinon même écouter d'abord en amont ce que l'autorité coréenne avait d'abord tenu comme discours, et ensuite, et voilà, la réponse du chef de l'État, il n'y avait pas de différence. Peut-être que beaucoup n'ont pas compris l'autre version, ils n'ont pas cherché à voir. Et ici, comme c'est le chef de l'État togolais, c'est notre chef de l'État, et donc c'est plus ce discours-là sur lequel on a été plus regardant, et malheureusement, on a pris juste le bout de phrase-là pour faire plusieurs commentaires qui n'étaient pas du tout. Qui ne rimait pas à la logique dans laquelle le chef de l'État était.
D'accord. Alors, Sam, c'est vrai que quand on prend ce discours, hein, on voit tout ce que le président de la République a dit par rapport à la jeunesse aujourd'hui, et dans un contexte bien donné, hein, on dira quand même que le chef de l'État a raison, et il suit bien l'actualité avec ce phénomène alors du terrorisme.
Non, moi je ne m'en doute pas. Et puis, le chef de l'État, ce qu'il est allé dire là-bas, fait suite déjà au speech du pasteur Oxo Park,
oui,
qui est le fondateur du centre
AYF
Youth Fellowship, un centre reconnu mondialement, qui a justement pour objectif de changer la mentalité des jeunes et les former à dépasser leurs limites et à élargir leurs horizons.
Il a eu affaire à assez de visites au Togo.
C'est-à-dire que c'est un centre internationalement connu. C'est ce programme qui amène des jeunes africains aux États-Unis pour s'imprégner des réalités. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas un diagnostic nouveau que le pasteur lui-même il a déjà posé. Ça veut dire que quand il y a des jeunes qui sont confrontés à ce genre de situation, des jeunes, justement, qui agissent avant de réfléchir, comme c'est le cas avec des jeunes qui se font recruter dans des groupes terroristes et qui s'adonnent à de l'extrémisme violent, c'est des jeunes, c'est des cas de figure que le pasteur a déjà vu. Et donc, dans ses propos, il a essayé d'effleurer cette thématique et le chef de l'État lui a juste emboîté le pas. Et vous souvenez-vous que le chef de l'État, il a l'habitude de dire que le terrorisme et le djihadisme, l'extrémisme violent, naissent de la précarité.
Tout à
fait. Et souvenez-vous de tout le plan de la région des savanes que le gouvernement est en train de déployer. C'est justement pour offrir à des jeunes des situations qui vont les empêcher de se radicaliser ou de s'adonner à ce genre de pratiques. Donc aujourd'hui, ce qui a été dit là-bas, moi, ça c'est pas étrange. C'est des constats qui ont été déjà établis. Donc, le chef de l'État, le président de la République, moi, je ne sais pas comment il peut aller injurier sa jeunesse, la jeunesse sur laquelle il compte, parce qu'on a l'habitude de dire que la jeunesse, c'est l'avenir d'une nation. Donc, insulter une jeunesse, moi, je ne pense pas que c'est dans cet exercice que le chef de l'État était. Il était en train de prendre la parole à la suite de son hôte, qui a même dit, il a même dit dans son discours, que lui pensait que ça devrait être une rencontre ils ont l'habitude de le faire. Mais en face, il y avait des jeunes de ce centre qui sont justement des jeunes que le centre a recrutés et qui est en train de transformer positivement. Et donc, quand il évoque le sujet, moi je pense qu'il n'y a même pas péril en la demeure. Il a dit juste ce que tout le monde sait aussi bas, parce que la dame, tout de suite, elle a parlé de précarité. Et quand un jeune est dans la précarité, il est facile pour ce jeune-là de se laisser enrôler par des groupes extrémistes et djihadistes, parce que quand un jeune a une arme, il finit de commettre un forfait avant de se rendre compte, quand il prend du recul, il se rend compte que, ah, mais l'acte que j'ai posé là, je n'aurais pas dû le poser. Donc moi, je pense que toute la polémique, tout ce imbroglio qui naît après le speech du chef de l'État n'avait pas sa raison d'être. Parce que, encore une fois, le chef de l'État n'avait pas pour vocation d'injurer sa jeunesse. Parce que il compte justement beaucoup plus sur la jeunesse togolaise que sur les gens qui ont un certain
âge. Alors, il faut aller au-delà du chef de l'État.
Voilà.
Aucun politique.
Qu'un politique ne peut même oser...
Soit de la mouvance présidentielle ou de l'opposition. Ouais, Personne ne peut se permettre cela.
Alors Jean-Baptiste, et concrètement, les détracteurs même d'ailleurs, hein, qui ont mis même d'ailleurs ces vidéos sur les réseaux sociaux et tout, qu'est-ce qu'ils attendaient alors du chef de l'État? Peut-être si nous imaginons un tout petit peu, ils attendaient que le chef de l'État dise quoi?
Au fait, un discours est un tout. Hein?
Tout à fait.
Oui, c'est un tout. Donc, si vous prononcez un mot ou bien une phrase qui peut-être peut porter... polémique, justement, vos détracteurs ont l'occasion de sauter là-dessus et de vous en vouloir et faire leurs commentaires comme ils veulent. Et donc, c'est ce qui est arrivé. Et donc, pour peut-être notamment parler de du bout de phrase qui fait justement polémique, c'est pour dire que aujourd'hui, on ne peut pas quand même dire que le bout de phrase là, qui est une conséquence de du développement que le chef de l'État a eu à faire dans son discours avant d'arriver à ce niveau, ce n'est pas aussi distant. Ce bout de phrase n'est pas vraiment distant de ce qu'il disait avant d'y arriver. Mais en tant que chef d'État, bon, il aurait peut-être dévoilé dans ce discours les actions vraiment qu'il mène pour pouvoir endiguer le terrorisme, et ce serait l'occasion pour pouvoir taire ces détracteurs. Mais comme cela n'a pas été dévoilé dans le discours, je crois que c'est l'occasion pour ces détracteurs justement de le critiquer à travers ce bout de phrase. Sinon, en définitive, aujourd'hui on sait qu'il y a la précarité au Togo, il y a le chômage qui existe de façon endémique dans les milieux, on ne dirait pas ruraux, hein, même en pleine capitale, il y a le chômage qui bat son plein. La preuve, vous lancez un concours, vous voulez recruter 100 personnes, c'est 25 000 candidatures que vous allez recevoir, 100 000 candidatures, c'est un problème récurrent. Qu'il y a réellement la précarité, il y a la pauvreté, mais en tant que chef d'État, en tant que premier décideur, je crois qu'il y a des actions qui devraient mener en conséquence, hormis ces quelques pas qui ont été posés dans le Grand Nord. Je crois que le Togo ne s'arrête pas au Grand Nord, l'étendue du territoire où le chômage et la précarité existent de façon endémique. Il est vraiment de bon ton que des actions concrètes soient menées pour pouvoir atténuer l'effet de ces fléaux qui exposent la jeunesse au terrorisme. Et de surcroît, dans ces sommets, dans ces rencontres, c'est l'occasion même d'exhiber, comment dirais-je, les causes du terrorisme. Et de trouver réellement des solutions. Il ne suffit pas de se retrouver en sommeil et dire qu'il y a mettre fin au terrorisme. Mais les causes, même, il faut s'attaquer aux causes profondes. Sinon, ces sommets n'auront pas leur valeur.
D'accord.
Je pense que ce qu'a dit le chef de l'État, c'est justement les causes de l'extrémisme violent et du terrorisme. Écoute-moi. Le chef de l'État a dit qu'il est dans une région où l'extrémisme violent et le terrorisme battent leur plein, comme tu dis. Mais quels sont ceux-là qui vont devenir des terroristes? C'est les jeunes. Pourquoi ces jeunes-là vont là? C'est parce qu'ils sont vulnérables. C'est parce que ces jeunes-là
doivent proposer des solutions à la vulnérabilité.
Le chef de l'État, dans ce contexte-là, a dit, nous avons besoin d'envoyer des gens à cette organisation pour qu'on les prépare. Et ce sont des formateurs qui vont revenir former les jeunes pour qu'ils n'accepte pas de participer à ce terrorisme-là, à cette violence que nous voyons.
Il a même parlé d'une éducation de qualité.
Voilà.
Il a dit que avez une éducation de qualité, on ne peut pas s'adonner.
En parlant même de maîtrise de soi, le mindset, tu sais, le chef de l'État veut dire tout simplement à la jeunesse que votre situation n'est pas une fatalité. Il suffit de vous remettre à votre communauté. Comme l'a dit tout à l'heure la dame, qu'elle n'aime pas qu'on parle de pauvreté. Qu'elle se dit, tu peux naître pauvre, mais il faut te battre pour sortir de ta pauvreté.
Mais pourquoi
mettre l'accent sur l'éducation dont parle le chef de l'État.
D'accord, ok, merci beaucoup. Alors, je pense quand même que nous allons en arrêter là pour le débat, et puisque nos auditeurs s'impatientent aussi de rentrer en ligne, de rentrer dans ce débat avec nous, et donc nous allons leur donner la parole, et c'est sur le 22 21 3314 et le 91 36 315. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5 Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse. Vous comprenez sans doute que nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 22 21 33 114. Premier auditeur que Michel l'insère. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, Basile.
Ah, comment vous allez?
Ça va, et chez vous?
Ah, ça va comme ça, tout bonnement.
D'accord, allez-y.
Salut tout le monde au plateau.
D'accord.
Bon, pour dire que les articles auxquels vous vous livrez là-bas, est-ce que vous voulez nous dire que le chef de l'État est un perroquet? Non, le chef de l'État, c'est pas un perroquet. Mais si vous parlez d'un pasteur ou bien quelque chose comme ça, non? Il dit quelque chose que si le chef de l'État sait que s'il reprend ça, ça va être mal interprété. Pourquoi il va reprendre? Non, il ne faut pas vous livrer à des exercices comme ça. Moi, je ne pense pas. Donc, ceci dit, il est notre chef de l'État, il est notre président. Avant de tenir des propos, je pense qu'il doit vraiment, vraiment, vraiment se mettre dans la peau parce qu'il représente plusieurs millions de Togolais. Et voilà quoi. Il ne faut pas. Mais les exercices auxquels vous vous livrez, ça ne vaut pas la peine.
Merci. D'accord, merci beaucoup Basile pour votre intervention. 22 21 33 114 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse de ce mardi. 22 21 33 114. Allô, allô, bonjour. Oui, bonjour, comment vous allez? Oui, ça va aussi, votre nom?
C'est monsieur Serge depuis Adakpa.
Pardon, monsieur?
Monsieur Serge depuis Adakpa.
Ah, monsieur Serge depuis Adakpa. Allez-y.
En fait, moi, je voudrais au chef de l'État. Je ne sais pas pourquoi aller sur les violents. Parce qu'il vient de dire que les gens qui n'ont pas de travail, qui sont des détournés, qui se livrent à tout ça. Lors des élections passées, et ceux qui ont bourré les urnes, qui sont violents envers les candidats, même dans le bureau de justice, là. C'est des gens qui ont quand même des boulots, qui ne sont pas des TV, c'est eux qui se. S'il le permet aujourd'hui, qu'il y a la majorité à l'Assemblée, pas j'en parle. Et deuxièmement, dans un pays normal, plus de 8 millions 500 d'habitants, et lui-même, il vient de dire qu'il y a une minorité qui s'est accaparé au bien du pays. Et la majorité.
Allô, Serge.
Oui.
Oui, il y a un bruit à côté de vous qui fait que nous avons des difficultés à vous écouter.
Ok, je vais me déplacer un peu. Et il y a la majorité qui se coupent dans les misères, qui sont affamés, tout ça là, c'est pas. Nous sommes affamés, c'est pour cela qu'on arrive à ce niveau avec ça, cela. Et ces minorités qui sont à l'Assemblée. De voter la loi dernière, au détriment de la majorité. Pourquoi il n'a pas dit que ces minorités ou bien ces députés-là ne sont pas intelligents? C'est pour cela qu'ils ont voté une unilatéralement la loi contre la majorité de ce peuple-là.
Décidément, nous avons toujours des difficultés à vous écouter. 22-21-33-74-91-36-63-75. Si vous nous appelez, restez dans les sujets débattus aussi aujourd'hui au Club de la Presse. Allô?
Allô, bonjour, Canal FM.
Oui, bonjour, Nestor. Comment vous allez?
Je vais bien.
D'accord, allez-y.
Oui. Dans la Gambie de Yaya Jamé, l'excision des jeunes filles a été interdite. Mais aujourd'hui, patatras, c'est le retour de l'excision. Ma question à madame, c'est quoi sa politique pour qu'un jour ce travail en complet, notamment dans la région des savanes, ne soit rendu à néant? Merci.
Ah, décidément, madame est déjà partie puisque elle a un impératif, donc elle est déjà partie. 22-21-33-114-91-36-63-75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour, madame. Ici.
Moi, je ne vous ai pas suivi, mais je sais que vous aviez parlé de la même chose.
Oui, madame, ici. Oui. Veillez aussi un peu la voix puisque nous avons un peu de mal.
Je ne vous ai pas suivi parce que je n'ai pas de courant. Comme le courant est précieux maintenant, après 64 ans d'indépendance, donc je ne vous ai pas suivi, j'ai attendu que les gens entrent en ligne, et puis je sais que vous avez parlé des mêmes choses, quoi, de la même chose, des députés, non? Je sais pas.
Non, aujourd'hui, nous n'avons pas parlé des députés.
Ah, vous n'avez pas parlé de...
Non.
Bon, je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous le saviez, là. Pourquoi on nous refuse l'alternance et la démocratie au Togo? Pourquoi on nous refuse ces deux trucs nobles qui font évoluer un pays et sa population? Pourquoi on nous les refuse? Est-ce que vous trouvez ça normal? Hein? Vous êtes là-bas, là, vous qui débattez tous les jours, vous fatiguez, vous pouvez nous gouverner dignement, non? Humainement. Mais on vous en prive, on vous prive même de rêver de gouverner ce pays. Est-ce que c'est normal? On vous a ôté ce rêve-là. C'est normal, mes frères, là-bas. Pourquoi on nous refuse ça? C'est pas normal, c'est pas bon. On y a besoin d'alterner, quoi. Même chez Dieu, là.
D'accord.
On alterne.
D'accord, ok, merci beaucoup. Et ce qui est sur Dieu est toujours Dieu. 22-21-33-114-91-36-63-75. Allô? Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, Canal FM.
Oui, comment vous allez?
C'est votre frère depuis le Danemark.
Ah, Richard.
C'est Richard.
Oui, allez-y, Richard.
Je suis très heureux de vous écouter. Vous voyez, un genre de polémique que j'en ai reçu. Franchement, en Afrique, on a besoin de faire un gros travail. Vous voyez déjà ceux qui diffusent sur la radio, sur votre radio, on voit leur mentalité, on voit leur propos. Il faudrait qu'il y ait un vrai travail. Sincèrement. Même les pays les plus démocrates qui est dans le monde, n'ont pas cette jeunesse, n'ont pas ce genre de propos. Si quelqu'un pense qu'en Afrique, au Togo, il n'y a pas l'alternance, que cette personne, que cette personne aille ailleurs. Nous avons besoin de faire un travail. Ce n'est pas la politique qui fait le travail. Jeunesse, battez-vous, allez travailler, cherchez-vous. Je ne sais pas. Le gouvernement ne peut pas employer tout le peuple. Battez-vous. Vous êtes tous à l'intérieur de la politique.
Allô, Richard.
Merci.
D'accord, merci beaucoup, Richard, pour cet appel que vous lancez à la jeunesse de travailler, de se battre. 22-21-33-114-91-36-63-75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Votre nom, c'est?
Gérard.
Gérard.
Oui.
Vous allez aussi un peu la voix.
Ok.
Bon. Oui, c'est bon, allez-y.
Voilà, je salue le plateau. Et moi je vais m'intéresser aux langues locales. Sam Dobor ne semblait pas être d'accord avec les autres, mais quelque part je le comprenais. Mais il faut une seule langue Pourquoi deux langues? Nous avons 42 ethnies dans ce pays. Maintenant, il faut prendre une langue pour, bon, ce n'est pas pour imposer aux autres, mais pour faire, c'est-à-dire une langue nationale. Quand vous allez au Sénégal, il y a le Séré, il y a plusieurs langues, mais ils ont pris le Wolof. Mais pourquoi ces deux langues? Nous, au Togo ici, nous voulons toujours compliquer les choses. Nous savons pertinemment que l'Évé est compris du sud jusqu'au nord. Mais pourquoi ne pas apprendre l'Évé comme la langue nationale? Et que l'Évé aussi, c'est une langue anti-violée sur régionale. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, il y a des accointances entre les Évés, les Atiers et autres. Donc, au Ghana ici, et au Bénin. Mais pourquoi ne pas prendre cette langue et on veut toujours prendre deux langues? Pourquoi? C'est parce que l'autre, c'est... Bon, on m'a dit que le président vient de là. Non. Prenons une langue. Ou bien si on ne prend pas les deux langues, on va prendre une langue minoritaire. C'est-à-dire, on peut prendre la Kébou et imposer à tout le pays. Sinon, ne pas privilégier, bien, ne pas valoriser nos langues, mais au moins une langue, notre identité, on va... la perdre comme ça.
D'accord. Merci beaucoup, Gérard, pour votre intervention. 22 21 33 114 91 36 315. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
C'est Nyamavo.
C'est Nyamavo, monsieur.
Allez-y.
Concernant la langue nationale, oui. C'est bon. À base de savoir qu'on prend Évé, il n'est pas Évé. Même à l'église, on est de fort. Vous allez à Nyamtougou, on chante. On loue Dieu en dessous. Donc, ça, c'est assez. Tout le monde sait parler la langue de Dieu. Maintenant, concernant la parole du chef de l'État, il n'a pas utilisé la portion-là. Donc, il a tiré directement sur la jeunesse, que la jeunesse ne réfléchit pas. Les gens disent que c'est cette portion de phrase qui intéresse le monde. C'est vrai, parce qu'une portion de la Constitution a intéressé les gens. Et vous voyez, donc la Constitution c'est un tout, mais une portion a intéressé les gens, ils l'ont fait. Hein? Vous voyez que ils devaient plutôt penser, comme ils parlent de l'éducation de qualité, les gens l'ont dit, mais au moment des élections, Bourail d'Urne, les opposants en ont parlé, comment on interdit les manifestations, tout ça là, quelle éducation on donne aux citoyens togolais ou bien aux citoyens de la sous-région. C'est la violence, c'est la violence qu'on donne comme éducation. C'est ce qu'on nous refusons. Moi, quelqu'un me demandait pourquoi je ne suis pas soldat en voyant ma carrière. Je dis, moi, je ne suis pas prêt à tirer sur un humain. Donc, moi, je ne peux pas le faire. Quand tu me vois, même quand tu me prends, peut-être que c'est self-défense. Mais si tu arrives à te mettre à terre, tu te retires la distance. Je ne peux pas tuer. Ça, c'est individuel. Donc, ce n'est pas que quelqu'un ne réfléchit pas, il prend les armes. Donc, c'est quelqu'un qui pousse la jeunesse. Il trouve que si je vais là-bas, je ne peux pas manger. C'est là où tu trouves qu'à manger, tu vas servir la personne, non, ou bien. Bonne journée.
Bonne journée à toi aussi, Nyamavo. Merci beaucoup pour votre intervention. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir le dernier auditeur. 22 21 33 74 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô?
Allô, bonjour, monsieur Pascal.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Ah, ça va, c'est Mathias de Tikégué.
Mathias.
Allô?
Oui, votre nom, c'est...
Pour tout ce qu'aujourd'hui, apparemment, on a l'impression que c'est les avocats des gens qui sont là aujourd'hui. Parce que, si on écoute très bien, au lieu qu'ils le disent sur les victimes, ils auraient dit qu'il est à l'origine. Il aurait dit qu'il a l'origine. Et ça, c'est compréhensible. Mais regardez ce qui se passe. Il y a la précarité partout. Et on n'a pas le courage de le dire, dit qu'on est victime. Il n'est pas victime. Il est plutôt à l'origine de tout cela. Bonne émission à vous. Et merci.
D'accord. Merci à toi. Je n'ai pas pu garder votre nom, mais je pense que c'est vous, le dernier auditeur pour le compte de cette émission de ce mardi. Nous revenons en plateau, cher confrère, pour faire un tour de table. Sam Diobo, vous avez écouté les uns les autres, votre réaction rapidement, et pour qu'on termine l'émission.
Non, je pense que moi, je n'ai pas à commenter les positions des auditeurs. Sauf que le seul mot que je vais placer, parce que beaucoup plus, en majorité, ils ont parlé de la situation de la jeunesse togolaise, ce qui n'est pas faux. Mais il y a en même temps parmi ces auditeurs quelqu'un qui disait que le gouvernement ne pourra pas donner du boulot à tous les jeunes.
C'est Richard depuis
Copenhague. Oui, Richard depuis Copenhague. Et je pense que je suis d'avis avec ce qu'il a dit. Puisque le gouvernement, c'est vrai qu'il ne peut pas trouver l'emploi à tout le monde, mais c'est le secteur privé qui doit aider le gouvernement à résorber le problème de chômage. Mais la réalité ou la constance dans ce que fait le chef de l'État, il n'a pas croisé les bras en ce qui concerne la situation de la jeunesse. Et quand on prend la région des savanes, je parlais du programme d'urgence de la région des savanes, parce que c'est beaucoup plus là-bas que le phénomène de l'extrémisme violent et du terrorisme bat son plein. Et donc il y a des dispositions qui sont prises pour mettre la population et surtout les jeunes dans des conditions acceptables, de sorte à ce que cette jeunesse ne puisse pas être vulnérable et amenée à basculer dans un camp, dans un djihadisme ou dans un extrémisme violent. Je pense que le travail que le chef de l'État fait, ça, c'est visible. Quand on prend tous les programmes qui sont mis sur pied en faveur de la jeunesse, ANPE, FAEJ, Volontariat, il y a beaucoup de ces programmes-là qui permettent au moins qu'on occupe les jeunes ou quand les jeunes finissent leur formation, qu'ils puissent trouver le nécessaire pour leur permettre dans un futur très proche de se lancer ou de se projeter dans leur avenir définitif.
D'accord.
Et donc moi je pense que le gouvernement en fait, il fait assez, mais il n'a pas fini de faire, puisqu'il y a encore des programmes qui sont en train d'être mis.
Oui, Sam, je reste avec vous pour votre note de fin d'émission.
Donc, la note aujourd'hui, ça sera une note de 7 sur 10 à l'ANPC, parce que par rapport à ce qui se passe en termes de pluie, inondation, sur tous les sites où il y a risque d'inondation, vous allez voir des gens de l'ANPC identifiables par leur gilet.
D'accord.
Qui sont
7 sur 10
à pied de
à l'ANPC. Ouais, 7 voilà, 10. Jean-Baptiste Attisson.
Oui, bon.
Une minute.
Oui. Moi, je reviens sur les préoccupations de Serge et de Madame Messi, quand même, qui ont parlé de. Effleurer les modifications constitutionnelles, le refus de l'alternance et de la démocratie au Togo. Je crois que leur préoccupation est vraiment légitime et surtout avec M. Nyamava aussi qui a évoqué une portion de la Constitution. Je crois que ça, sur ce plan, je crois que ces trois auditeurs, je partage leurs préoccupations parce que ce qui s'est passé dans notre pays est un véritable coup d'État constitutionnel, comment effectué par les 91 députés et ce qui a été promulgué par le chef de l'État, c'est un véritable coup d'État constitutionnel qui a opéré dans notre pays. On ne doit pas se leurrer sur ça. Et au-delà de ça, évoquant le fait que on ne peut pas quand même trouver de l'emploi à tout le monde. L'État ne peut pas trouver de l'emploi à tout le monde.
Les conditions,
ça c'est une vérité, mais c'est que l'État, le gouvernement doit créer les conditions pour que les conditions d'employabilité de la jeunesse, de la population active, l'État doit créer ces conditions. Mais je crois que ces conditions-là, vraiment, ne sont pas au rendez-vous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la misère est toujours ambiante. La faim est là. Et les concours, je l'ai
dit tantôt. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Votre note, alors, de fin d'émission, rapidement. 10 secondes.
4 sur 10.
À qui?
Au chef de l'État.
D'accord. OK. Eric?
Oui, moi je voudrais dire merci aux auditeurs. Je pense que pour la première fois, un sujet de culture a intéressé tout le monde et c'est surtout par rapport à nos langues nationales. Oui, effectivement, on peut toujours discuter par rapport aux deux langues. Pourquoi deux langues et non une seule? Et voilà, et je pense que à partir de ce moment, les Togolais comprennent qu'il ne faut pas quand même délaisser nos cultures. On va tout simplement être complètement déracinés. Et je crois que ceux qui sont en train de faire ces formations-là et de chercher à renforcer la littérature Kabien et Evé, on les encourage à continuer. Par rapport à la polémique inutile sur les propos du chef de l'État, quand quelqu'un dit qu'apparemment c'est des commis de l'État qui sont là pour défendre le président, je lui dis non, nous n'arrivons pas ici en sachant de quoi nous allons parler. Il faut que les auditeurs comprennent cela. Quand on envoie, quand le gouvernement envoie quelqu'un, le commis de l'État, il sait de quoi il va parler. Mais nous, nous sommes des journalistes. Nous venons ici, franchement, c'est toi l'administrateur.
Et c'est moi qui détenais alors les sujets à débattre.
Nous ne savons pas de quoi nous allons parler. Donc, nous ne sommes pas des avocats de Fogna Sibé, mais nous disons tout simplement que le chef de l'État ne peut pas insulter.
Et votre note de fin d'émission.
Oui, je donne... encore 8 sur 10 à l'Institut français du Togo qui va nous permettre les 14 et 15 juin prochains, c'est-à-dire vendredi et samedi, d'avoir l'écrivain africain Alain Mabankou qui sera en rencontre littéraire.
D'accord, merci beaucoup.
On va mieux le découvrir.
Merci beaucoup, Eric. Oui, Ali.
Oui, moi, je dirais félicitations à nous tous, hein, parce que vous savez, la liberté d'expression, c'est quelque chose de très capital, et c'est ce qui nous réunit ici dans ce studio. Hier, il y a quelques années, peut-être, cela n'était pas possible, et que les auditeurs puissent donc comprendre que nous ne sommes pas obligés de dire ce que eux, ils pensent forcément dans leur tête. C'est aussi ça, cette diversité qui permet d'évoluer. Et je dis souvent, quand vous écoutez l'autre parler, même si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous en tirez quelque chose. Donc, pour dire que c'est l'occasion pour nous tous quand même d'accepter les uns les autres. Je n'ai pas commenté les propos des auditeurs, mais encore une fois, que les uns les autres sachent que nous venons ici et que le sujet, on le jette comme ça, on ne connaît pas le sujet d'avance.
D'accord. Alors,
maintenant, enfin, je voudrais dire, donner un carton jaune.
Plutôt une note.
Une note, oui. 1 sur 10 à Golf 5, qui malheureusement, je ne sais pas encore, parce que je ne suis pas encore tombé sur la bonne personne.
C'est le maire à Boka.
Le maire à Boka, parce que dans sa commune, il y a des semaines, sinon des mois, dans certains quartiers, où les ordures ne sont plus ramassées. Il y a ces sociétés
de collecte d'ordures
qui disent que leurs engins ont été bloqués. Au niveau de la mairie, pour le moment, à Boka, il n'est pas de contact difficile, mais on n'a pas encore l'occasion vraiment de tomber sur lui. Donc, on n'a pas encore vraiment la possibilité.
D'accord. Merci beaucoup, Ali, d'être passé dans cette émission. Merci, Eric, Pakoudjo Johnson. Merci, Jean-Baptiste Atisso, Sam Djobo. Merci à vous d'être passé aussi dans cette émission. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à vous qui nous avez appelés aussi, puisque votre contribution a participé effectivement à ce débat citoyen que nous avons tous ensemble. Alors, merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde, Jérôme Dakoucha a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou, je vous retrouve demain mercredi à partir de 11h pour un nouveau numéro de Club de la Presse. Portez-vous bien.